Voilà, vous écoutez Jet FM sur le 91.2. Nous sommes en direct du lieu unique dans l'atelier 2 pour suivre le festival Midi Minuit Poésie, où l'on va maintenant, après cette troisième et dernière lecture, c'était celle de Marcella Durand, enregistrée au Panonica dans le cadre de la soirée autour des poètes américaines jeudi dernier, dans le cadre de Midi Minuit Poésie, ce jeudi 8 décembre. On va maintenant offrir la parole à deux revues sur les trois qui sont invitées pour le festival, La Moitié du Fourbi et Les Divisions de la Joie. Et c'est Alain Nicolas qui va mener cet entretien.
Merci. Et merci à tous d'être là pour cette rencontre qui va être consacrée au travail de deux revues, Les Divisions de la Joie et La Moitié du Fourbi. J'accueille donc Frédéric Fioloff, qui est un des fondateurs de La Moitié du Fourbi en 2015, février 2015 si ma mémoire est bonne.
C'est cela.
Et Luc Benazé, qui a créé cette année, donc en 2016, Les Divisions de la Joie. Alors, La Moitié du Fourbi, donc, en est à son numéro 4. C'est une parution semestrielle, si je compte bien. Et c'est une revue qui travaille sur un système de thèmes sur lequel des contributions sont demandées à des auteurs. Et Division de la Joie est une revue qui se présente de façon... autant La Moitié du Fourbi a une apparence, je dirais, alors là on ne parle que des apparences et des objets, si on peut dire, traditionnels. Bon, c'est donc une revue à dos carré, de façon qui pourrait se ranger dans la bibliothèque aux côtés des autres revues sans déparer. Et donc Les Divisions de la Joie, ce sont de tout petits cahiers, de quelques pages, de petits formats, à deux prix très modiques par ailleurs, et qui sont au départ en tout cas qui sont centrés, enfin qui partent avec pour point d'appui le travail de Frédéric Benazé et de Victoria Xardel. Voilà. On va tout de suite poser la question que les gens posent toujours sur les revues, c'est pourquoi ces titres? Alors, La Moitié du Fourbi, à quoi faites-vous allusion en parlant de La Moitié du Fourbi? Où est l'autre moitié? De quelle fourbi s'agit-il? Quelle moitié avez-vous choisi?
Alors, il y a plusieurs choses dans La Moitié du Fourbi. Je pense que... je vais commencer par la fin et pas par le début. Donc par la fin, je dirais que c'est effectivement un titre qui nous semble résonner par son ouverture, l'aspect un petit peu curieux que ça peut évoquer. Le fait que le fourbi renvoie peut-être aussi à certaines résonances littéraires du côté de Michel Léris, de Jacques Prévert. L'idée de moitié, j'ai trouvé de très belles choses dans la Gazette des lycéens qui ont lu nos revues et qui en ont parlé, avec, il le disait très bien, avec cette idée moitié dans le sens peut-être une moitié qui est du côté de la littérature et une autre moitié qui se joue peut-être avec une vision littéraire, mais à livre fermé, c'est-à-dire aller aussi explorer certaines curiosités du monde avec un certain regard. Donc il y a tous ces aspects-là. Donc l'autre moitié reste toujours un peu devant nous, on va dire, puisque c'est un peu ça l'idée. Donc on trouvait que ça résonnait bien. Et puis donc le début, ça serait simplement quelque chose de beaucoup plus anecdotique et non littéraire, puisque ce titre vient d'un souvenir qui concerne un jeu traditionnel dans le sud de la France, qui est le jeu du loto, où des personnes d'une moyenne d'âge avancée jouent dans des cafés l'hiver au loto. Donc ce sont des cartons sur lesquels on pose des petits jetons, des grains de maïs, avec quelqu'un qui est chargé de tirer des numéros au sort, et vu que bon, c'est toujours un petit peu la même chose, il agrémente les numéros qui sortent avec des petits jeux de mots, des petites ritournelles, 13, les jambes de Thérèse, 12, tire-lui la blouse, que sais-je. Et il se trouve que il y a 90 numéros et que lorsque c'est le 45 qui sort, il dit la moitié du fourbi. Voilà. Donc ce mot-là était revenu et dans le décontextualisant, ça nous a évoqué des choses dans un autre univers. Et voilà, il y avait un petit clin d'œil aussi là-dessus. Et du coup, ça a été le titre adopté.
Et les divisions de la joie, c'est évidemment, alors ceux qui ont écouté de la musique dans les années 80-90 se souviennent qu'il y a eu un groupe qui s'est appelé Joy Division et qui lui-même était nommé ainsi à partir de souvenirs, alors peut-être moins aimables, les divisions. Qu'est-ce qui vous a attiré, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'intituler votre revue de la sorte, Luc Bénazé?
Alors je voudrais juste rappeler aussi que cette revue, nous la publions à deux, hein, Victoria Xardel et moi, qui donc Victoria est donc absente. Alors nous avions décidé de créer cette revue lorsque c'était le mois de novembre 2015, spécialement le 14 novembre, lorsque nous avions attendu un individu, alors Premier ministre, gloser sur la prétendue âme française et sur la supposée nécessité de la défendre. Et donc on avait d'abord choisi comme titre Les terroristes pour la revue, et puis on n'a pas été certain que notre humour soit tout à fait perçu comme tel, et donc on a changé le titre. Et effectivement, on aime beaucoup Joy Division, et la mémoire que vous indiquez, évidemment, elle est problématique. Je ne pense pas que nous aurions pu l'intituler en langue allemande ainsi. Et de maintenir ce titre en français malgré ce qu'en allemand il désigne, c'était une manière pour nous d'insister sur la possibilité d'entendre les choses à la lettre. C'est-à-dire que, ou bien cette mémoire interdisait qu'on le dise en français, les divisions de la joie, à cause de ce que le référent en allemand désigne, ou bien c'était possible, mais c'était possible à la condition, et à la condition seulement, d'entendre ce titre à la lettre. Et donc, c'est la joie qui est divisée, et c'est ça que ce titre veut dire.
Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément toutes les clés historiques en main, les divisions de la joie, vous pouvez nous dire ce que c'était à l'origine, donc dans les années 40. Alors, c'était...
C'est un effectivement, autant le dire, puisque c'était la possibilité offerte aux officiers nazis je ne sais pas quel mot employer d'ailleurs, de faire violence à des femmes qui leur étaient offertes sexuellement.
Voilà, et c'était aussi ceux qui constituaient les orchestres qui accompagnaient des commandos de prisonniers dans les travaux les plus difficiles lorsqu'ils quittaient le camp. Donc il y a évidemment un côté extrêmement provocateur, mais en même temps la volonté de s'appuyer justement sur, d'ailleurs c'était la démarche du groupe en question, de s'appuyer sur cette provocation pour montrer que, peut-être pour faire réfléchir aussi sur le langage et sur les mots. Et c'est quelque chose qu'on trouve dans votre revue d'ailleurs, il y a toujours dans votre travail personnel aussi, Luc Bénazé, il y a toujours une sorte de mise en question de l'évidence de la parole.
Si je vous suis, je me souviens de d'une tentative ou plutôt d'une tentative d'ailleurs, que, excusez-moi, je bafouille un peu, mais je me souviens de ce qui se passait, ce qui se jouait en Russie au début du XXe siècle autour du mouvement Zaoum et d'individus qui pratiquaient la poésie et qui considéraient que attenter à la langue, c'était attenter aux valeurs sociales. Donc oui, la moindre des choses, c'est peut-être en effet d'attenter à cette communauté linguistique qui se donnerait comme allant de soi ou admise.
Voilà, alors bon, je pense que nous allons en reparler, certainement. Mais ce qui est aussi toujours intéressant quand on côtoie les gens qui se lancent dans l'aventure d'une revue, c'est justement ce côté aventureux hein, de la revue, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut tout le monde s'accorde à dire que des revues il y en a beaucoup, qu'on peut pas tout suivre, qu'on peut pas tout voir, que c'est quelque chose d'assez encombré au minimum. Est-ce que comment se fait-il que vous ne soyez pas découragé par ce type de constatation et que vous ayez le désir, qu'est-ce qui donne le désir de revue? Alors Frédéric Fioloff.
Alors pas découragé, alors je précise qu'on est courageux déjà, donc c'est pour ça qu'on n'est pas découragé, mais je pense qu'il y a un désir qui se fait en ce qui nous concerne, il y avait j'étais déjà un lecteur de revues, donc je trouve que je fréquentais beaucoup le salon de la revue notamment, et c'est on s'aperçoit que c'est un lieu quand même assez foisonnant qui permet des prises de risques, des explorations qu'on trouve peut-être moins facilement dans l'univers éditorial des livres, on va dire, d'une part. Et voilà, donc il y avait cette envie de mener aussi une aventure collective, puisque la revue c'est une aventure collective. En tout cas, c'est comme ça que pour la moitié du Fourbi, ça s'est fait aussi, même si l'initiative au départ est venue de moi. Mais il y avait l'envie de pouvoir associer des gens que j'aimais lire, avec qui j'avais envie de travailler. Il y a l'aspect objet aussi qui compte, même si on peut avoir d'autres médiums aujourd'hui, bien sûr, via Internet, tout ce qui se fait de très bien d'ailleurs aussi du côté de la création numérique ou de blog ou de choses comme cela. Ce travail qui est différent avec l'imprimeur, avec l'objet, c'est un mélange de tout ça et l'idée que voilà, qu'on est aussi sur une aventure qui va peut-être pouvoir nous autoriser des déplacements, des prises de risques, des expériences qu'on aurait peut-être moins eues ailleurs ou différemment. Voilà ce que je pourrais dire.
Et vous, Luc?
Je trouve que c'est un objet extrêmement excitant, l'objet revue. Il y a des traditions, évidemment, de gens qui pratiquent la poésie et qui, dans le même temps, créent des revues. C'est un objet bricolé, c'est ce que je trouve aussi assez plaisant, en tout cas pour ce qui nous concerne.
Là, j'en profite pour montrer, hein. Voilà, donc ça c'est les divisions de la joie, et on en parlait, l'objet, hein, puisque Frédéric Fioloff vient de montrer la moitié du Fourbi, mais je vous laisse poursuivre.
Donc oui, c'est un objet qu'on fait, je ne sais pas, sans doute sans raison aucune. Pour nous, à ce moment-là, on avait envie de faire une revue de travail, c'est-à-dire qu'avec Victoria Xardel, on avait envie d'un objet qui déplace un peu l'espace du bureau, mais qui reste modeste en effet dans sa forme et qui soit aussi facilement appropriable, donc peu cher. Nous l'imprimons au risographe. Et donc c'est une revue de travail, c'est-à-dire que nous avons publié dans chacun des numéros des pages que nous écrivions à ce moment-là. Et puis nous souhaitions également publier des contes, car nous sommes lecteurs de contes, et des textes de critique sociale. Et concernant la poésie, en langue française, en tous les cas, on a publié des individus qui n'avaient jamais publié jusqu'alors. Et ça aussi, c'est assez excitant à faire.
Alors, précisément, comment... je vous laisse... demander de poursuivre justement dans cette réponse. Est-ce que comment choisissez-vous les... Alors, quand on examine la série, hein, on s'aperçoit que au début, oui, il y a principalement vos deux signatures. Il y a des contes tibétains anonymes qui sont donc qui sont pas attribuables à un auteur. Et puis ça s'ouvre peu à peu. Donc là, c'était le projet, c'était à la fois de publier des textes que vous auriez écrits et puis d'ouvrir de plus en plus. Il y a critique sociale, si on veut. Enfin, il y a l'entretien avec Angela Davis, qui est. Alors, c'est un entretien qui date de 1972, mais qui a toute sa valeur, toute son actualité. Donc, c'était votre projet. C'est comme ça que vous avez cherché des auteurs, vous avez attiré des gens, vous avez sollicité des gens précisément, vous avez attendu qu'on s'adresse à vous. Comment ça se passe?
Alors c'est vrai que d'emblée il y avait ce projet comme je l'ai indiqué avec la présence du conte, parce qu'il y a un conte tibétain, mais il y a aussi des contes de Abel, et puis il y a aussi un conte traduit du chinois, issu de la tradition taoïste. Et c'est vrai que l'entretien avec Angela Davis, qui n'avait pas été traduit, on l'a aussi publié au printemps dernier. C'était un entretien qui pose la question de la violence supposée de ceux qui s'opposent à la violence d'État, et bien sûr d'une manière critique. Et quant aux auteurs de textes de poésie, c'est-à-dire Elinora Léger, Antoine Bérard et Paul Aimé, c'est précisément parce qu'ils n'avaient pas publié et parce que nous aimons bien leur travail que nous les avons publiés.
Voilà. Frédéric Fioloff, ça se décide comment le sommaire d'un numéro de la moitié du Fourbi?
Donc on part d'une proposition à chaque numéro, c'est un peu le principe de la revue. Et sur cette base-là, effectivement,
Alors, quand vous dites « on », ça veut dire qu'il y a un comité de rédaction.
Tout à fait.
Vous avez commencé par vous réunir en collectif, ou vous avez décidé et puis appelé des gens, ou voilà, comment déjà c'est constitué ce « on » ?
Alors, il y a un comité de rédaction constitué de 5 personnes, hein, Anthony Poirodeau, Zoé Baltus, Hugues Leroy, Romain Verger et Hélène Gaudy. Pour ce qui est du choix des thèmes, sur les premiers, c'était des propositions venues de moi qu'on valide ensemble ou pas. On a toujours quelques thématiques qu'on a à l'esprit et qu'on essaie de retenir pour leur potentiel, on va dire, d'interpellation d'auteurs, d'envie d'écriture, de variété possible aussi. Et derrière, pour ce qui est des auteurs, donc il y a les 5 membres du comité de rédaction qui écrivent, qui participent généralement systématiquement, et on fonctionne plutôt par sollicitation, c'est-à-dire qu'on sollicite des auteurs que les uns ou les autres connaissent éventuellement parce qu'ils les ont lus, parce qu'ils s'intéressent à ce qu'ils peuvent faire dans le champ de l'écriture. Parfois ce sont des auteurs que nous ne connaissons pas et vers lesquels nous allons en leur expliquant un peu le principe de notre revue, sa couleur, et en leur proposant de s'associer pour un numéro ou plusieurs. Et sur cette base-là, le sommaire se tisse ainsi peu à peu.
Alors vous parliez de sa couleur, c'est-à-dire que vous avez une idée de ce qu'est la couleur de la moitié du Fourbi. Vous pouvez nous dire ce que ça, voilà, comment vous définiriez ça si vous avez à proposer à quelqu'un d'écrire ou plus simplement de lire d'ailleurs la moitié du Fourbi.
Donc on se situe dans un registre, c'était un petit peu l'envie. Qui effectivement a essayé de trouver un espace qui soit intermédiaire entre, enfin un autre espace en tout cas, entre une revue qui accueillerait des textes de création dans le sens de textes de fiction, de nouvelles par exemple, d'histoire, il y a de très belles revues qui existent déjà comme ça, ou par ailleurs de revues disciplinaires, voire transdisciplinaires, ou qui relèveraient d'une critique littéraire en tant que telle, avec justement l'idée de trouver un espace qui soit celui de texte de création de non-fiction, on peut dire. Donc on essaie autour de nos thématiques d'accueillir des textes qui peuvent relever du témoignage, du récit, des textes qui vont essayer de voir comment la proposition du numéro résonne chez certains auteurs, donc qui s'apparente un peu à de l'essai, de la critique littéraire, mais toujours avec un regard personnel, c'est-à-dire comment aussi on peut entrer chez un auteur avec une sensibilité, un regard de lecteur. Donc il y a un petit peu ce mélange-là. Il peut y avoir aussi des montages de textes, d'autres types de contributions qui sont parfois photographiques, parfois poétiques. On est dans un espace donc un petit peu hybride qui jouerait dans le registre de la non-fiction sur différentes gammes de cet ordre-là.
Alors vous avez devant vous là le numéro 4. Est-ce que vous pouvez de façon concrète nous dire un peu, nous commenter, si on peut dire, nous raconter la fabrication de ce numéro 4 et nous dire ce qu'il y a dedans. Alors donc le titre c'est Lieu artificiel. Voilà.
Voilà. Donc là.
Donc alors première question. Comment on choisit ce titre-là, enfin ce sujet? C'est donc c'est vous qui avez l'idée, c'est quelqu'un qui vous le propose. Alors, ça se fait dans une soirée bien arrosée, et on ne sait plus trop bien comment on est arrivé là.
Tout est possible. Tout est possible. Disons qu'après, c'est que ça vienne de moi ou d'autres personnes. Là, c'est quelque chose que j'avais soumis à mes copains et copines du comité de rédaction. Il y a une validation ensemble. Donc, une fois que c'est adopté par le comité de rédaction, on y va. Voilà. Donc, on essaye un petit peu de travailler autour de ça. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'on prétend pas, bien sûr, c'est pas notre objectif quand il y a un thème, une proposition à chaque numéro, on ne prétend pas la couvrir de manière exhaustive, hein, c'est pas l'objectif, mais d'essayer de l'explorer avec les auteurs qui écrivent habituellement, plus ceux qu'on va inviter, avec ce que ça comporte aussi comme prise de risque, puisqu'on se dit que c'est un thème qui peut nous parler, aller dans certaines directions, et puis parfois il y a des directions qu'on n'avait pas prévues qui sont révélées. Voilà. Alors par exemple, pour parler concrètement de lieux artificiels, on va retrouver dans le sommaire différents types de textes. Alors je précise qu'à chaque numéro, il y a également un entretien qui peuvent être de différentes personnes. Cette fois, ça avait été un entretien qu'on avait fait avec Xavier Boissel autour d'un livre qui évoquait la construction d'un faux Paris à la fin de la Première Guerre mondiale qui était une
Paris
ville...
Paris est un leurre. Hein.
Voilà, Paris est un leurre, et donc une ville trompe-l'œil qui visait à une époque où les radars n'existaient pas, à tromper l'aviation allemande, donc il y avait ça. Voilà. Et puis on va retrouver des choses qui sont de différents ordres, donc aussi bien des choses qui sont peut-être plus du côté du témoignage personnel et qui vont évoquer comment ce thème lieux artificiels peut résonner en lien avec peut-être d'autres choses, mais dans une histoire de vie. On a un très beau texte de Jeanne Sautière, donc écrivain publié chez Vertical notamment, qui s'appelle Vertigo in situ, dans lequel elle évoque la question de son rapport à la ville en raison de vertiges chroniques qu'elle a et qui l'amène aussi à s'interroger sur ce que c'est que perdre pied dans une ville. Donc à partir de son expérience personnelle, elle ouvre ça aussi à d'autres situations sociales qui ne la concernent pas elle directement, mais elle essaie de rentrer dans cette résonance-là. On va trouver... Il y a un texte de Anthony Poirodeau sur le ruin porn, notamment, c'est-à-dire donc cette espèce de fascination pour les ruines urbaines contemporaines et toutes les questions que ça peut poser, et d'autres choses très différentes. Un très beau texte de Lucie Taïeb aussi sur la question du déchet dans nos villes modernes et de la façon dont ils sont cachés à la mémoire des villes. Donc elle a fait toute une enquête autour de la déchetterie de Fresh Kills à New York, à Staten Island, qui lui permet aussi d'évoquer, d'ouvrir la question de la ville sur ce qu'elle peut cacher. Et voilà, donc là, bon, c'est quelques exemples du sommaire. On va avoir un texte sur Brasilia d'André Rougier qui concerne aussi la question d'une ville artificielle dans le sens de monter sur plan et comment on peut vivre néanmoins des choses vraies dans le cadre d'une ville de cet ordre-là, et différentes choses. Donc voilà. Et puis une contribution photographique, puisqu'on en a une à chaque fois, qui cette fois était une contribution d'un artiste chinois, Yang Yongliang, qui était, je crois, présent sur les dernières rencontres photographiques d'Arles, qui fait tout un travail en reprenant la tradition du paysage naturaliste chinois dans la peinture classique chinoise pour recomposer des tableaux de cet ordre-là, mais avec des micro-photographies de paysages industriels. Donc tout un travail un peu de détournement de cette tradition-là. Voilà. Donc en gros, juste pour dire que c'est un type de sommaire, et c'est ce qui se passe souvent, où on va retrouver des choses qui sont plus effectivement du côté d'une curiosité paralittéraire, du côté d'un témoignage plus personnel, du côté d'une résonance avec, pourquoi pas, un auteur. Voilà, donc on essaie d'occuper un peu cette sphère-là. C'était un petit
Alors,
bout du sommaire.
Vous vous adressez, en gros, à des auteurs qui ont déjà publié, voire souvent publié. Est-ce que vous avez, disons, l'ambition, ou est-ce que c'est pas du tout un problème pour vous, de publier des textes d'auteurs débutants ou qui n'ont jamais, parce que je dis ça parce que souvent on considère la revue comme une sorte de point d'accès à la publication, et c'est particulièrement vrai en poésie. C'est vrai beaucoup en France. C'est quasiment obligatoire dans un pays comme les États-Unis. Dans les États-Unis, les revues d'université, de revues de création littéraire, chaque université a la sienne, et c'est en général comme ça que ça commence. Même pour des gens confirmés aujourd'hui, voire des célébrités. Donc, est-ce que vous, ça fait partie de vos soucis ? C'est pas du tout une obligation, mais est-ce que vous essayez de travailler dans ce sens-là, de détecter des gens ?
Alors, il y a effectivement des auteurs publiés, il y a aussi des auteurs qui ne sont pas publiés ou pas encore publiés. Il y a toujours généralement un ou deux auteurs qui ont pu faire des choses en écriture, bien sûr, puisqu'on demande quand même à voir ce qu'ils écrivent, mais qui ne sont pas nécessairement publiés. C'était le cas, là, par exemple, dans le numéro que je viens de citer d'André Rougier. Il y a d'autres... voilà, donc c'est pas systématique, même s'il se trouve que la grande majorité des personnes ont été publiées. Après, est-ce qu'on considère notre revue comme un, entre guillemets, si je puis dire, un tremplin éventuel pour des personnes qui n'auraient pas publié? Pas systématiquement, on reste ouvert à, voilà, il n'y a pas de limite posée, la publication n'est pas une obligation pour ça, mais c'est plutôt de la sollicitation qui peuvent aller ou vers l'un ou vers l'autre. On s'est posé la question de ça, c'est-à-dire aussi de pouvoir ouvrir la revue sous la forme éventuellement d'appel à contribution auprès d'auteurs qui du coup n'auraient pas publié. Pour l'instant, c'est pas le choix qu'on a retenu, aussi pour des questions de temps, puisque ça demande beaucoup de temps, ce genre de manière de procéder. Et on consacre déjà beaucoup de temps au travail de cette revue. Mais voilà, c'est des choses qu'on peut aussi envisager, puisqu'il y a des rencontres qui peuvent se faire, et on n'est pas fermé là-dessus. Par contre, juste ce que je voulais ajouter, s'il y avait peut-être quelque chose qui nous intéresse, c'est, et ça arrive assez fréquemment dans notre revue, c'est pour des auteurs qui ont déjà publié, que ça puisse être aussi une occasion, soit éventuellement de montrer un travail en cours quand ça résonne avec le thème du numéro, soit de s'essayer à des formes d'écriture qui ne sont pas celles qu'elles vont adopter habituellement. Donc il y a pas mal de choses intéressantes qui se sont passées de ce côté-là, c'est-à-dire personnes publiant plutôt du roman qui vont justement s'essayer à de l'investigation littéraire, ou vice-versa. Enfin voilà, on essaie aussi de trouver des lieux de déplacement comme ça, de façon à ce que la revue puisse permettre aussi d'explorer, d'expérimenter des choses nouvelles.
Luc Benazet, alors est-ce que vous pouvez nous raconter, si on peut dire, on va dire l'histoire du numéro 6, par exemple, de Division de la Joie, où on peut lire votre signature et celle de Victoria Xardel, mais de celle d'autres contributeurs. Donc comment voilà, on en arrive à monter ce sommaire. Alors je précise qu'évidemment la périodicité n'étant pas la même, j'imagine que les choses doivent se faire avec il y a des notions de délai qui sont évidemment différentes, mais voilà, comment on travaille pour aboutir à la publication de ce numéro de les divisions de la joie.
Alors pratiquement, je crois que vous l'aviez dit au tout début, mais c'est vrai que on peut le préciser, c'est très mince puisque ce sont 12 pages d'un format presque carré. Et nous avons publié une série de 6 numéros, un numéro tous les mois, donc on est allé relativement vite, en tout cas à la mesure de nos lenteurs. Mais ce que je voudrais encore dire, c'est que si les textes de poésie, les contes et les textes de critique sociale voisinent pour nous comme lecteurs, on voulait qu'ils voisinent aussi dans la revue, et donc on avait aussi un goût pour le montage. Donc, dans ce numéro 6, il y a des très courtes proses qui voisinent avec la forme du conte de Hebel, dans des nouvelles traductions, qui ce sont des gens de Rennes, Poncerre, qui ont proposé ces traductions, qu'on leur a prises, ces traductions. Voilà, je décris le sommaire pour commencer. Il y a un poète suédois qui s'appelle Martin Ekström, qu'on aime beaucoup avec Victoria.
Et qui en fait, on avait publié des cartes postales.
Tout à fait. Voilà. Ouais, tout à fait. Martin Ekström, qu'on avait publié dans le numéro 1 et qu'on voulait retrouver dans le numéro 6 parce qu'on savait qu'on allait clore la série avec ce numéro 6. Et je disais qu'il était un revuiste, qui fait une revue qui s'appelle Slot, qu'on aime bien. Qui publie en Suède, mais qui publie aussi un numéro français au printemps. Il y a des textes de Victoria, des textes de moi, puisque c'est toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et puis ce texte d'Angela Davis. Comment nous l'avons composé, à vrai dire, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous le racontez. Un texte de Victoria s'appelle Les Casseurs. Un texte de Hebel s'appelle « Comment l'on se fait raser par charité ?» Et un vers de Martin Ström est « Maintenant, le temps seul est sauvage. » Et puis, cela s'achève sur des nouvelles formules de la joie, en tout cas celles que nous appelons de nos voeux.
Oui. Alors, en fait, quand on regarde la revue, bon, vous venez de préciser qu'elle comporte 12 pages pliées. On vient de voir qu'elles ne sont pas piquées. Donc, c'est assez minimal, en fait, comme objet. Là aussi, c'était un choix. Frédéric Fioloff parlait en particulier du travail de demander à des photographes ou voilà, donc là on est dans le texte brut, enfin pas brut au sens brut d'écriture, mais en termes de composition et de typographie, et donc ça faisait aussi partie du projet.
C'est un objet très simple à fabriquer. Et ça, c'était une condition, puisque ça le rend donc très très simple. Je me répète à faire. Donc on n'avait pas besoin d'argent et on pouvait le faire très vite, voilà. Et aussi, on faisait donc un objet qui est d'aspect matériellement, enfin comme ça, qui est assez pauvre, qui coûte 3 €. Et donc ça, c'est un objet qui était facile à acheter, en tout cas on pouvait l'imaginer, en librairie ou sur abonnement. Et quoi d'autre? Voilà, on imprime sur Rézographe, on plie à la main, on envoie aux abonnés, on dépose en librairie, tout ça était très facile à faire, et ça c'était important.
Voilà, alors si on rentre justement dans cet aspect très matériel, l'aspect du processus de pas seulement de conception et d'écriture, mais de fabrication de l'objet matériel et de sa diffusion. Donc, bon,
Il faut aussi qu'on s'interroge, et je vais vous interroger l'un et l'autre, sur justement la façon, qui est quand même le grand point qui est posé en matière de revue, mais pas seulement d'ailleurs, c'est celui de la diffusion. Vous disiez que vous l'envoyez aux abonnés, c'est-à-dire que vous avez fait une sorte j'emploie les termes qu'on emploie dans le métier, mais disons vous avez cherché à d'abord à informer de l'existence de cette revue, de la possibilité de l'acheter, de est-ce que vous avez demandé par exemple une sorte de pré-souscription aux abonnés, voilà. Alors donc voilà.
Non, mais vous avez raison, c'est un aspect tout à fait important. Alors il se trouve que Victoria Xartel, elle est une revuiste, c'est-à-dire qu'elle a fait déjà beaucoup de revues. Quant à moi, c'est la première fois que je contribue à la publication d'une revue. Sa précédente revue s'appelait L'Usage, et donc elle était identifiée par des lecteurs de revues de poésie comme quelqu'un qui faisait des revues. Ensuite, on s'est adressé à des librairies amies. Donc les libraires ont joué leur rôle dans le fait de faire savoir que cette revue existait. Nous-mêmes, on a peut-être quelques lecteurs, donc ces lecteurs aussi peuvent être a priori intéressés par une revue que l'on fait. Et puis en guise de campagne, j'ai créé une page Facebook, ce qui est quand même déterminant, voilà. et qui a permis néanmoins, blague à part, à quelques personnes de s'adresser à nous. C'était fait pour ça, par ce biais-là, des lecteurs, des propositions de contribution, et je crois que voilà tout.
Et vous n'avez pas, vous parliez de Facebook, mais vous n'avez pas envie, ou vous n'avez pas senti le besoin d'utiliser Internet comme moyen de communication autour de la revue pour en assurer la diffusion, la faire connaître, en faire connaître l'existence en tout cas. Donc c'était vous êtes limité à.
Ben, les libraires sont pour nous sont vraiment des. C'est vraiment des personnes. D'ailleurs, il y a des libraires à Paris, librairie Texture, le Comptoir des mots, la librairie Vendredi, qui prenaient les numéros, qui les défendaient. À Tanger aussi, les Insolites, d'autres. Enfin, je nomme pas toutes les librairies en France, mais pour nous, c'est vraiment c'est vraiment des personnes importantes. Et donc, ce sont celles et ceux qui sont à mesure, en tous les cas, elle est le mieux à même de faire savoir que cette revue existe. Je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire en ligne, à vrai dire, pour faire savoir que la revue existe. Je ne sais pas à qui on se serait adressé ni comment. Comme notre idée n'était pas de faire une revue en ligne, puisque c'est une revue de texte, et qu'à mon avis, des objets sonores ou visuels, seraient mieux en ligne que le texte même. Voilà, on a privilégié cette diffusion à l'ancienne.
À l'ancienne. Et Frédéric Fioloff, vous avez. La question Internet ou papier n'est pas forcément la seule qu'on se pose, mais comment on démarre, comment on lance une revue. Je me souviens, pour témoigner personnellement, avoir été approché, on m'a écrit et on m'a demandé si je voulais commander. Donc vous avez commencé en vous adressant à un certain nombre de gens qui étaient connus, des participants, en constituant une sorte de petit fichier. Comment vous avez fait ?
Alors, sur la question, on va dire, de la diffusion de la revue,
les questions plus traditionnelles, classiques de la diffusion de la revue.
Alors, par contre, ce que je voulais dire juste avant sur la question du premier pas dans le monde de la revue, puisque Luc expliquait que sa collègue, elle, avait déjà cette expérience. Moi, c'était pas le cas. Et juste pour dire que pour toutes les personnes qui seraient intéressées par l'idée de concevoir, fabriquer des revues, que tout est possible. Donc j'ai appris en marchant, en m'adressant à des revues qui existaient déjà, des éditeurs, et que finalement, l'un dans l'autre, on peut très bien y arriver, quoi. C'est-à-dire on apprend de ce côté-là et on se lance en se renseignant auprès de ceux qu'ont déjà fait, et il y a quelques process à maîtriser, un certain nombre de choses, et puis après on peut se lancer dans l'aventure. Sinon, pour le reste, il y a parenté avec aussi les divisions de la joie de ce côté-là. On est, il y a différentes choses. Donc en termes de communication, on a bien sûr une page Facebook, on a un site internet aussi qui archive nos sommaires, qui présente un peu l'actualité de la revue quand il y a des lancements de numéros, quand il y a je sais pas, quand on vient à midi minuit poésie, quand on, etc. Et puis bien sûr deux choses en ce qui concerne la vente. Donc on fonctionne pour l'instant, on a des souscriptions 2-3 mois avant le lancement du numéro. Voilà, donc à un prix un petit peu minoré qui permet aussi à des lecteurs de nous soutenir en souscrivant en ligne. On leur envoie à une certaine date, mais bien sûr l'achat en ligne peut continuer après, mais on a évidemment un gros partenariat avec les librairies, ce qui compte beaucoup pour nous. Donc voilà, donc on est présent actuellement là, de mémoire, je dirais peut-être dans 60-70 librairies en France, essentiellement, donc beaucoup sur Paris, puisqu'on est basé en région parisienne, mais aussi ailleurs, notamment pas mal à Nantes, hein, j'en parle aussi, j'en profite, à Vendouest au lieu unique, La Vie devant soi, et voilà, dans d'autres librairies aussi, ce qui compte beaucoup, un petit peu à l'étranger, à Bruxelles, à New York, chez Albertine, depuis peu, et voilà, donc c'est un petit peu ces différents faisceaux-là de présence et de vente qui contribuent à faire vivre notre revue, et bien sûr la présence aussi sur des événements qui nous semblent importants, le salon de la revue bien sûr, et d'autres événements, le marché de la poésie parfois, ou d'autres, voilà.
Et alors quand même, pour revenir un peu, compléter sur cette histoire des rapports entre médias virtuels et objets papier, vous avez aussi une prolongation, enfin quelque chose qui sur Internet soit permet de vous lire, soit permet de vous simplement de connaître votre existence ou l'actualité de la revue, ou bien c'est quelque chose qui n'est pas du tout qui est hors sujet.
Si, alors on a un site qui est plutôt un site qui n'est pas un site de contenu, dans le sens où on développerait des contenus comparables à ce qui se fait dans la revue, mais un site d'information qui nous permet de rappeler les sommaires des numéros, éventuellement un peu l'actualité des auteurs, les librairies où on est présent, etc. Après, on est en train de réfléchir là actuellement à un lien possible avec des formes numériques de la revue, notamment sur des prolongations possibles d'articles publiés dans la revue, qui pourrait peut-être être ou développé ou repris sous d'autres formes via notre site ou un blog auquel on réfléchit. On a notamment dans le prochain numéro qui va sortir en mars, le numéro 5, une contribution qui va mener à ça, c'est-à-dire qu'il y aura aussi une suite, un prolongement possible de la contribution de l'un de nos auteurs sur une création numérique qui sera communiquée le moment venu. Donc voilà, on reste aussi ouvert à des liens possibles, pourquoi pas, qui nous semblent intéressants entre ces deux univers. Mais pour l'instant, notre site reste un site d'information, de communication, et notre revue, l'objet de nos contenus et de notre projet, de notre travail.
Alors, Luc Benazé disait qu'on lui avait soumis déjà des propositions de contribution. Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive à vous? Est-ce que les gens vous envoient des textes? Ou est-ce que, le côté thématique de la formule sert un peu de barrière pour des gens qui pourraient hésiter à vous envoyer des propositions?
Alors si on en reçoit sans en demander, puisqu'on expliquait que c'était pas foncièrement le principe de notre revue, on en reçoit. Je pense que toutes les personnes qui même modestement sont aussi un petit peu repérées comme publiant des textes et de la littérature sont bien sûr, c'est normal, sollicitées par des personnes qui écrivent, et je suppose que ça doit voilà arriver à d'autres. Après il y a des sollicitations qui sont parfois, je pense, de la part des personnes qui nous envoient ça via nos adresses mail ou autre, le plus souvent un petit peu, j'ose pas utiliser le terme de bouteille jetée à la mer, parce que ce serait un peu, c'est pas ça que je veux dire, mais ce sont pas forcément des personnes qui ont lu la revue, donc vous voyez qui transmettent des textes comme à nous, comme sans doute à beaucoup d'autres personnes. Je pense que dès qu'on est repéré comme publiant du texte, on a voilà, et ça peut arriver. Alors pour l'instant, il ne s'est pas produit de rencontre particulière à ce niveau-là parce qu'on fonctionne pas vraiment comme ça. Mais oui, ça arrive bien sûr, ça se produit.
Luc Bénazet, ça fait bien, ça fera un an bientôt que les divisions de la joie sont parues, enfin ont commencé à apparaître. Et est-ce que bon, il est peut-être un peu tôt pour faire un bilan, mais est-ce que vous êtes content quand même de la façon dont ça se passe?
Ah, moi, je suis très content, absolument, de cette aventure qui nous a occupé les 6 premiers mois de l'année 2016. Et donc on va engager une seconde série, mais ce sera tout à fait méconnaissable car ce que nous voulons faire désormais, c'est une publication anonyme, et donc ni le nom de la revue ni ceux des contributeurs ou contributrices ne seront présents, donc on ne la reconnaîtra pas, mais on sera content de la faire.
Alors, ce ne sera pas reconnaissable, c'est-à-dire que même format, papier, tout ça, tout va changer.
Non, tout sera différent.
Tout sera différent. Donc, mais anonyme, mais pas clandestin. Donc, voilà.
Non, on va quand même l'assumer, c'est-à-dire qu'on va quand même l'imprimer et la diffuser absolument.
Et donc, vous allez entamer une série de 6 numéros qui va s'étendre sur le...
Non,
ce ne sera plus exactement le même système de,
non, aucun paramètre.
De calendrier.
Voilà. Non, absolument pas. Parce qu'on va pas avoir le même format. On avait déjà ce souhait de sortir de la maison. Enfin, je veux dire de quitter la poésie comme abri. Mais on voudrait aller plus loin encore dans ce déplacement. Et donc, on a un numéro qui est prêt. On prépare déjà un autre.
Et alors, quand on voudra en parler, on dira quoi? La revue qui n'a pas de nom, faite par des gens qui ne signent pas?
Voilà, j'ai trouvé un truc, ça avait l'air pas mal, j'ai lu un truc de machin, je sais pas, ou machine.
Quand on demande ça à un libraire, on dit, vous avez pas ce truc, on sait pas trop.
Voilà. Ouais, il paraît qu'il y a un truc, et voilà. En général, on trouve.
Faite par tu sais qui.
Voilà.
Voilà. Bon, mais alors donc on va attendre ça, et puis alors il va falloir rester d'autant plus en éveil pour pas manquer la chose. Frédéric Fioloff, donc le prochain sommaire, le prochain thème, ce sera
le prochain numéro. La proposition sera Noir et ce n'est pas la nuit. Donc,
voilà. Voilà. Et qui est attendu pour
Autour du 19-20 mars.
Merci. Donc le rendez-vous est pris. Et donc je pense que vous pouvez trouver les revues, les divisions de la joie et la moitié du fourbi sur les tables de la librairie. Et puis je signale, Frédéric Fioloff, que vous avez publié votre premier roman, donc vous étiez, avant même d'être publié, vous étiez déjà donc revuiste. Et je signale aussi le dernier livre paru de Luc Bénazet aux éditions Nous, Articulé. Merci à vous. Et merci à vous tous de votre écoute.
Merci à vous.
Merci.
is life. But the sickness is drowned by Christ more. Pray to God, make it quick, watch him fall. This is the way.
Oui, c'était un peu facile, mais vous les aurez reconnus, c'était Joy Division, Atrocity Exhibition. Ça me fait penser à un magnifique morceau de Bruit Noir, Joy Division justement, bref, où il évoque ce morceau, Pascal Boisise. Nous allons patienter tranquillement jusqu'à la reprise des moments en live dans le salon de musique, puisque je vous le rappelle, ou je vous informe, si vous prenez l'antenne en cours, que sur Jet FM, nous sommes en direct depuis le lieu unique, dans l'atelier 2 pour le festival Midi Minuit Poésie jusqu'à minuit voire plus, en temps réel donc. Et nous allons dans pas très longtemps écouter les lectures des œuvres de Marie Cosnet, qui n'a pas pu se rendre au festival, mais la lecture de son œuvre va être faite dans un instant au salon de musique. On va écouter avant cela une petite chose, une très belle chose, puisqu'on parlait de publication. Là, ça ne s'agit pas de revue, mais d'une très bonne maison d'édition nantaise, L'Incalante, qui publie à la fois des textes sur la musique, mais aussi republie des poètes oubliés dans des traductions parfois étonnantes, des poètes souvent du 19e, début 20e. Voici une création musicale faite exprès pour la republication des Apocalypse Rose de Charles Plimel. Et donc Guillaume Bellhomme, qui est à l'œuvre sur L'Incalante, commande à chaque fois une pièce musicale spécifique qui est glissée dans un petit CD 3 pouces à l'intérieur du magnifique petit livre de poésie. Charles Plimel, donc auteur ancien de la fin du 19e, de la moitié du 20e, il est né en 35. Apocalypse Rose, quelque chose d'assez proche de la Beat Generation, et Bill Nace fait une création sonore, musicale, d'une quinzaine de minutes pour accompagner ce joli petit livre que vous trouvez à pas bien cher aux éditions L'Incalante. On l'écoute.